Voici un enseignement donné dans le cadre de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite partagé, avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour celui qui l'écoute.
Quelques lectures en vue de la prédication maintenant. Prédication Jacques 1, verset 1. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus dans la dispersion, salut. Nous avons d'autres versets de l'Écriture qui nous parlent de ce Jacques, donc, qui a écrit cet épître sous l'inspiration du Saint-Esprit appelé par Dieu. Et c'est dans Actes 15, les versets 13 à 21, que nous rencontrons Jacques. Nous situons juste un petit peu le contexte. Donc, Paul et Barnabas reviennent de leur premier voyage missionnaire. Ils reviennent à Antioche et ils racontent comment des païens se sont convertis à Dieu. Mais des Juifs de Judée arrivent à Antioche et voudraient que les païens convertis soient circoncis. Et il y a un vif débat. Et alors Paul et Barnabas montent à Jérusalem pour rencontrer les apôtres et les anciens de l'église de Jérusalem, et c'est dans ce contexte que l'on se trouve. Lorsqu'ils se turent, Jacques prit la parole et dit « Frère, écoutez-moi, Simon a raconté comment pour la première fois Dieu est intervenu pour prendre parmi les nations un peuple consacré à son nom. » Et les paroles des prophètes s'accordent avec cela. Comme il est écrit, « Après cela, je reviendrai et je relèverai la tente de David qui était tombée. J'en relèverai les ruines et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, dit le Seigneur, qui fait ces choses connues de toute éternité. C'est pourquoi je juge bon de ne pas créer de difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais de leur écrire qu'ils s'abstiennent des souillures des idoles, de l'inconduite, des animaux étouffés et du sang. Car depuis les anciennes générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit chaque sabbat dans les synagogues. » Voilà quelques mots de Jacques sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et maintenant, nous allons un peu mieux connaître par les Béatitudes, par Matthieu 5, 1 à 17, beaucoup du contenu de cette épître de Jacques, une sorte de résumé du contenu. Alors, lisons Matthieu 5, 1 à 17. Matthieu 5, verset 1. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Il s'assit, et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il ouvrit la bouche et se mit à les enseigner. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on répandra faussement sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. c'est vous qui êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on? Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir.
Sans électricité, impossible d'utiliser son lave-linge. Sans Saint-Esprit, impossible de comprendre la parole de Dieu. Quelle grâce! Jésus-Christ nous promet le Saint-Esprit qui n'est jamais limité par une diminution d'énergie. Nous comptons sur lui encore ce matin pour qu'il nous guide dans sa parole. Quelle joie de pouvoir ouvrir nos Bibles ce matin ensemble et chercher à comprendre ce que Dieu nous a transmis dans sa révélation. Le Saint-Esprit est l'auteur de toute la Bible. C'est le Saint-Esprit qui est l'auteur de toute la Bible. Ne l'oublions jamais. Un auteur et plusieurs écrivains, dont chacun a aussi mis du sien dans le texte, de sa personnalité, comme nous pouvons le voir. Nous commençons aujourd'hui un nouveau livre biblique, Roland en a parlé tout à l'heure. Il s'agit de la première lettre dite générale ou catholique dans le sens universel du terme. Alors peut-être plusieurs ont lu l'épître de Jacques avant de venir ce matin. C'est très bien, cela va vous aider aussi à faire des liens de ce qu'on va voir ce matin. Ou vous pourrez la lire après aussi et vous souvenir de tout ce qu'on aura vu ce matin dans cette prédication d'introduction. Je vous encourage à avoir vos Bibles ouvertes dans l'épître selon Jacques, puisqu'on va voyager ensemble un petit peu dans cette épître. C'est une lettre particulière de 108 versets, dont plus de la moitié, près de 60, sont à la forme impérative. En fait, c'est un appel à la mise en pratique, en fait. Un petit peu comme la deuxième partie du livre d'Éphésiens ou la deuxième partie de Romains, où nous voyons là un appel à mettre en pratique la parole de Dieu. Cette lettre, en fait, ne mentionne que deux fois le nom de Jésus. Chapitre 1, verset 1, chapitre 2, verset 1. Et elle ne parle explicitement ni de la croix, ni de la résurrection. Alors, une question qu'on pourrait avoir, mais l'évangile fait-il partie de Jacques? C'est une question à laquelle j'aimerais répondre. L'évangile se trouve-t-il dans Jacques? Et j'aimerais vous démontrer que l'évangile s'y trouve en vous donnant un exemple dans chacun de ces chapitres. Il y a 5 chapitres, donc nous aurons ici au moins 5 exemples. Au chapitre 1, nous trouvons au verset 17, que vous avez oublié d'ouvrir pour aller regarder ces versets. Au verset 17, il est parlé de « tout don excellent et tout cadeau parfait viennent d'en haut ». Quel autre cadeau est aussi parfait que l'évangile de Jésus-Christ? Le salut en Christ est un don si excellent. Ou encore au chapitre 2, verset 13, il est dit « La miséricorde ou la compassion triomphe du jugement ». L'évangile n'est-il pas la plus grande preuve de la miséricorde de Dieu? Ou au chapitre 3, il est question de la sagesse d'en haut, verset 17, qui décrit en fait bien des qualités de l'évangile qui vient d'en haut. Ou encore au chapitre 4, il est dit que Dieu donne sa grâce aux humbles, verset 6, qu'il s'approche de nous, verset 8, que lui seul peut sauver ou perdre, verset 12. Ce sont toutes des marques claires de l'évangile. Au chapitre 5, il est dit que le Seigneur est plein de compassion et de miséricorde, au verset 11. Au verset 13, il est question de pardon des péchés. Et la lettre se termine en fait par un merveilleux message de l'évangile au verset 20. L'évangile fait-il partie de Jacques? Alors j'espère avoir donné assez de raisons pour pouvoir répondre clairement. Oui, l'évangile est dans l'évangile et dans l'épître de Jacques. Bon, maintenant que nous avons compris que cette lettre est complètement imbibée de l'évangile, j'aimerais aussi enlever une autre mauvaise image de cette épître, et particulièrement de l'auteur. L'auteur est-il judaïsant? Un certain souligne l'influence juive de cette épître, et il est vrai qu'il y a un certain nombre d'allusions à l'Ancien Testament, mais est-il judaïsant pour autant? Alors, qu'est-ce que c'est qu'un judaïsant? En fait, c'est quelqu'un qui veut que tous adoptent les rites et les modes et le mode de vie des juifs. Certains disent que l'auteur de l'épître de Jacques serait le leader des judaïsants. Ouais, mais vous ne trouvez aucune allusion à la circoncision dans ce texte, ou aux fêtes, ou au sabbat, ni même un encouragement à se séparer des chrétiens d'origine païenne pour prendre les repas. Dans cette épître, en fait, vous n'avez aucune allusion à la circoncision, aux fêtes, au sabbat, ni même un encouragement à se séparer des chrétiens d'origine païenne pour le repas. Toutes des choses que les judaïsants voulaient, en fait, qu'ils soient vécues. Alors, j'espère que cela permet maintenant aussi d'éliminer cette fausse croyance. L'auteur de Jacques n'est pas un judaïsant. Pour entrer dans cette lettre aujourd'hui et répondre à la question « Pourquoi s'intéresser à l'épître de Jacques ?» C'est le titre de cette prédication. « Pourquoi s'intéresser à l'épître de Jacques ?» Eh bien, je vous propose deux éclairages, deux angles d'observation de ce livre biblique. Le premier, c'est le contexte de l'épître qui nous pousse à nous y intéresser. Le contexte de l'épître va nous pousser à nous y intéresser quand nous connaîtrons un peu mieux l'écrivain à qui ce texte est destiné et que c'était vraisemblablement, en fait, la première lettre écrite du Nouveau Testament. Il n'y avait pas d'autres lettres du Nouveau Testament au moment où Jacques a été écrit. Donc c'est le premier verset qui va nous conduire dans ce premier aspect. Et pour le deuxième éclairage, eh bien, nous parlerons du contenu de l'épître qui nous motive à nous y intéresser. Son contenu nous motive à nous y intéresser quand nous comprendrons que les sujets abordés sont importants, actuels, que nous trouvons des points de repère, un petit peu comme dans le livre des Proverbes, et que nous trouvons aussi des liens très forts avec l'enseignement de Jésus. Donc commençons par le contexte de l'épître de Jacques qui nous pousse à nous y intéresser. Alors, on peut lire le premier verset. Aujourd'hui, on lit qu'un verset de Jacques. Par la suite, on avancera dans cette épître par péricope, par groupe de versets. Donc, premier verset aujourd'hui, Jacques, serviteur ou esclave, puisque le terme original parle ici d'esclave, Jacques, esclave de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus dans la dispersion, salut. Donc, qui a écrit ce livre? Le premier verset est simple et clair, non? C'est Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Il s'agit donc d'un Jacques. Là, je fais juste une petite parenthèse. Certains disent que Jacques, Jacob, c'est de la même racine. C'est vrai pour ces deux termes. Mais dans le Nouveau Testament, les noms de Jacques et de Jacob sont très bien différenciés. C'est deux termes différents. Donc ici, il n'est pas question d'un Jacob pour auteur de cette lettre. Je ferme la parenthèse. Mais de quel Jacques s'agit-il? Connaissez-vous des Jacques dans la Bible, dans le Nouveau Testament? Il y a plusieurs Jacques dans la Bible. Et peut-être le plus connu, c'est le frère de Jean, le fils de Zébédée, qui faisait partie des trois proches de Jésus. Pierre, Jacques et Jean, on dit souvent. Ceux qui étaient très proches de Jésus. Serait-ce ce Jacques-là qui a écrit cette épître? En fait, ce Jacques-là, le frère de Jean, fils de Zébédée, a été décapité par Hérode très tôt dans l'histoire de l'Église. Donc il est en fait très peu probable que ce soit lui qui a écrit cette épître ici. Et comme il ne donne aucune précision, je ne sais pas si vous avez remarqué, il dit juste Jacques, esclave de Dieu, etc. Mais il ne dit pas de fils de qui il est, quel est son rôle, etc. Donc comme il ne donne aucune précision, le Jacques qui a écrit en fait la lettre est quelqu'un qui doit être connu, reconnu de l'Église. Il n'a pas besoin de dire en fait qui il est, on sait qui il est. Et en fait, quand on réfléchit à tous les Jacques que l'on peut trouver dans la Bible, il ne reste que celui qui est intervenu lors de la discussion de Jérusalem en acte 15 comme quelqu'un de très connu et reconnu de l'Église. Donc ce texte que nous avons lu tout à l'heure dans acte 15. Donc comme il ne donne aucune précision, le Jacques qui écrit cette lettre est quelqu'un qui devait être connu, reconnu de l'Église, et il ne reste que celui qui est intervenu lors de la discussion à Jérusalem dans Acte 15 pour le situer. C'est donc Jacques, le demi-frère de Jésus. Donc en parlant de Jésus, voici ce que Matthieu nous rapporte dans Matthieu 13, 54. Il dit ceci. Il se rendit, donc Jésus se rendit dans sa patrie, se mit à enseigner dans leur synagogue, de telle sorte qu'ils étaient étonnés, disaient, mais d'où nous vient cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Jude? Voilà le Jacques duquel il est question ici. Paul le désigne d'ailleurs comme étant le frère du Seigneur dans Galates 1, 19, hein, quand il dit « Mais je n'ai vu aucun apôtre si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. » D'ailleurs, les écrits du 1er siècle, donc juste après que l'épître de Jacques a été écrit, donc dans les années qui ont suivi, en fait, confirment que cette lettre a été écrite par Jacques, le frère de Jésus. En fait, il avait la même mère, Marie, mais il n'avait pas le même père, puisqu'en fait, le père de Jésus-Christ, c'est Dieu. Alors que pour Jacques, eh bien, c'était probablement Joseph. Et Jacques a grandi avec Jésus, il l'a vu vivre en tant qu'enfant, en tant qu'adolescent, en tant qu'adulte. Mais lorsqu'il a commencé son ministère, ses frères l'ont pris pour un fou. C'est vraiment ce qui s'est passé. Le frangin qui était là, qui faisait la charpente avec, et tout à coup il part, il commence à annoncer l'évangile. Ils étaient là quand les vins étaient transformés à Cana et tout, ils étaient présents. Il y avait toute la famille qui était là. Mais ils l'ont pris pour un fou. On voit des textes où ils vont même le chercher. Il est hors de sens. Jean dit d'ailleurs clairement dans Jean 7, 5, « En effet, ses frères ne croyaient pas en lui. » Ils ne croyaient pas en Jésus-Christ. Mais, c'est magnifique mais, hein, mais Dieu a changé le cœur de Jacques. Et en fait, il a vu Jésus ressuscité. Il lui est apparu une fois ressuscité. On a ça dans 1 Corinthiens 15 où il est dit « Ensuite, il a été vu par Jacques et ensuite par tous les apôtres. » Donc après le départ de Jésus à l'ascension, donc à l'ascension, Jésus est retourné au ciel, eh bien Jacques, comme les autres frères de Jésus d'ailleurs, persévérait d'un commun accord dans la prière avec les apôtres. Vous trouvez ça dans Acte 1, 14. Après le départ de Jésus à l'ascension, Jacques, comme les autres frères de Jésus, persévérait d'un commun accord dans la prière avec les apôtres. Et c'est d'ailleurs à ce Jacques-là que Pierre demande d'annoncer sa libération miraculeuse. Vous vous souvenez, Jacques, fils de Zébédée, a été exécuté. Ensuite, Hérode, elle dit « Ah, mais ça fait plaisir aux Juifs, alors je vais arrêter quelqu'un d'autre. Ah ben, arrêtons Pierre, en fait. » Puis il l'a arrêté, mis en prison, vous vous rappelez peut-être de l'histoire. Puis il est sorti de prison, il était frappé à la porte. On priait pour lui, mais en fait, on n'ouvrait pas la porte. Enfin, vous connaissez l'histoire. Puis au moment où on a ouvert la porte, il a dit « Ben, allez dire à Jacques que j'ai été libéré. » Ce Jacques, c'est le frère de Jésus. L'autre, il était mort. Ça ne pouvait pas être l'autre. Ok? Et ensuite, Pierre s'en est allé. Donc Jacques est un homme qui a une grande autorité dans l'Église. Déjà au moment où il écrit sa lettre. On le verra ensuite, donc Acte 15, ce qui s'est passé à Jérusalem, ce que certains appellent le premier concile, eh bien, c'est passé après l'écriture de la lettre de Jacques. Si le concile avait été écrit avant, eh bien, dans la lettre de Jacques, on aurait des traces de ce concile. Il y a des choses qui seraient étonnantes de cette lettre si le concile avait eu lieu précédemment. Donc, Jacques l'a écrit avant, donc très tôt. Il est probable aussi que Jacques n'a jamais lu les lettres de Paul, parce qu'elles n'étaient pas encore écrites. Donc, il n'y avait pas toutes les autres lettres comme nous, on les a ici. Les lettres Romains, Galates, Éphésiens, etc. qu'on a, c'était pas écrit. Donc, quand Jacques a écrit sa lettre, toutes ces lettres-là n'étaient pas encore écrites. Il semble que Jacques est donc là, première lettre écrite du Nouveau Testament. Bon, maintenant que nous avons de bonnes raisons de croire que Jacques, le frère de Jésus, a écrit cette lettre, à qui l'a-t-il écrit? Bon, ben, on revient au verset 1. « Où dit Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus dans la dispersion. » Donc ça, c'est les destinataires, en fait. « Aux 12 tribus dans la dispersion. » Et cette expression « 12 tribus » en fait vient de la compréhension de l'Ancien Testament qui nous indique l'ensemble du peuple de Dieu. C'est l'ensemble du peuple de Dieu. Il y a un lien avec les Juifs qui sont partis de Jérusalem, hein, puisqu'en fait, la dispersion, il est parlé des tribus dans la dispersion, le terme utilisé c'est « diaspora », vous avez déjà entendu de ce mot « diaspora ». Donc c'est le même terme qui est utilisé aussi dans le livre des Actes, quand il y a eu la persécution, vous vous souvenez peut-être de l'apôtre Paul, qui était là quand Étienne a été mis à mort, puis ensuite qui a commencé à persécuter l'Église. Les gens sont partis, se sont diasporaïsés, se sont dispersés, si vous voulez. Et ici, c'est le même terme qui est utilisé ici par Jacques. Et donc, ce rapprochement de ces termes nous permet aussi de voir que Jacques, qui est un des responsables de l'Église de Jérusalem, les gens partent de l'Église de Jérusalem à cause de la persécution, eh bien, va écrire, en fait, à ces personnes qui sont dispersées. Donc, il y a un lien aussi avec toutes ces personnes qui sont parties, mais évidemment, c'est pour toute personne qui va lire cette lettre. Nous pouvons donc raisonnablement penser que l'un des principaux responsables de l'Église de Jérusalem envoie une lettre aux chrétiens qui avaient été dispersés par la persécution. Ces chrétiens ont un arrière-plan juif, donc pourront facilement comprendre les références à l'Ancien Testament qu'on trouve dans l'épître de Jacques. Jacques, qui a vécu à côté de Jésus, ne dit pas que c'est son frère. Certains disent, si c'était vraiment lui, il l'aurait dit. Eh bien, en fait, Jacques nous parle beaucoup d'humilité aussi dans cette lettre. Et en fait, s'il avait dit qu'il était le frère de Jésus, en fait, tout le monde se serait focalisé sur lui. Et je pense que c'est une des raisons pourquoi Jacques ne parle pas de ce lien avec Jésus. Il dit qu'il est le serviteur, voire même l'esclave du Seigneur Jésus. Jacques est un témoin privilégié, comme nous le verrons dans les points qui suivent. Il est imbibé de l'enseignement que Jésus a donné. Et cette lettre est écrite à des personnes qui sont loin de leur patrie. Comme nous, quelque part, sommes loin de notre patrie céleste, on s'en réjouit d'y être, actuellement on en est encore loin. Donc nous sommes quelque part des personnes dispersées encore dans ce monde. Nous allons donc étudier cette lettre aussi avec grande attention. Donc comme cette lettre est écrite par le frère de Jésus, que c'est écrit à des personnes qui sont loin de leur patrie, eh bien nous allons nous y intéresser. Nous allons réfléchir maintenant au contenu de cette épître. C'est le deuxième point, le contenu de l'épître qui nous motive à nous y intéresser. Et nous allons voyager dans la lettre et rencontrer 6 domaines touchés par le Saint-Esprit dans Jacques. Donc c'est le Saint-Esprit qui a inspiré Jacques. Je vous ai dit, c'est un auteur pour toute la Bible, avec des écrivains différents. Ici, Jacques en est l'écrivain. Donc premier élément, premier sujet que j'aimerais souligner, c'est que Jacques nous indique la divinité de Jésus. Jacques nous indique la divinité de Jésus. Mais comment tu peux nous dire ça? En fait, déjà simplement avec le premier verset. Pas seulement, mais déjà avec le premier verset. Donc, s'il n'utilise le nom de Jésus que 2 fois, il nous permet de rendre compte qu'il est Dieu. Dans le premier verset, il met Dieu et le Seigneur Jésus au même niveau. Il est esclave de Dieu et du Seigneur Jésus. Donc, Jacques, il ne fait pas de différence ici. Il ne dit pas « je suis esclave de Dieu ». Et puis en fait, puis après il va parler du Seigneur Jésus. Non, il est esclave de Dieu et du Seigneur Jésus. C'est le même niveau d'autorité pour lui. Dans la suite du texte d'ailleurs, le terme Seigneur qu'il a utilisé ici pour parler de Jésus sera utilisé aussi pour Dieu. Donc il l'utilise pour Jésus et il l'utilise pour Dieu. Par exemple, dans chapitre 4, verset 10, il est dit « Humiliez-vous devant le Seigneur ». Et là il parle de Dieu en fait. Ou au chapitre 4, verset 15, « Si le Seigneur le veut, nous vivrons. » Ou encore au chapitre 5, verset 4, il parle du Seigneur des armées. Le Seigneur des armées, c'est une claire allusion pour quelqu'un qui a un peu la notion de l'Ancien Testament, à l'Éternel des armées. Et vous pourrez encore trouver d'autres occurrences dans ce texte, il parle du Seigneur qui est utilisé ici dans ce texte, ou encore un exemple dans Jacques 5, verset il faudra le chercher, où il parle en fait de Job, que le Seigneur accorde cette fin à Job. C'est bien clair que c'est de Dieu qu'il parle. Donc comme Jacques voit le Seigneur comme étant équivalent à Dieu, lorsque vous reliserez cette épître, et je vous encourage à la relire souvent durant toute notre série, comme ça elle va un peu s'imbiber en nous, eh bien chaque fois que vous voyez le terme Seigneur, vous pourrez l'appliquer à Jésus-Christ et découvrir un aspect supplémentaire de Christ également. Par rapport à ce premier thème, la divinité de Jésus reste un sujet très important en 2022. Peut-être encore plus maintenant qu'il est complètement mis de côté par notre société. Qui croit encore à la divinité de Jésus actuellement? Et pourtant, c'est un point essentiel de notre foi. Un deuxième sujet, c'est que Jacques, dans son épître, nous parle d'épreuves et de tentations. On verra d'ailleurs qu'il joue un peu sur les mots quand on étudiera ces différents passages. Hein. Mais il va nous aider à savoir quelle attitude avoir face à l'épreuve. Quelle attitude? On va l'étudier dans Jacques. Que va produire l'épreuve? Quelles seront les conséquences de l'épreuve? Jacques va nous le dire. Cette lettre répond à ces questions et cela commence dès le verset 2, hein, qui dit « Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, etc. » Jacques, en fait, écrit à des chrétiens dans la difficulté, qui se retrouvent dans un contexte hostile et souvent sont dans une condition désavantageuse, une situation inférieure à ceux avec qui ils vivent. Donc Jacques écrit à des chrétiens dans la difficulté, qui se trouvent dans un contexte hostile et souvent dans une condition désavantageuse. Il est intéressant de noter que nous trouvons bien des parallèles avec 1 Pierre. Hein, quand on parle de souffrance, ça c'est bien d'avoir un petit peu des réflexes dans nos têtes, hein. Quand on grandit en maturité, on dit souffrance, 1 Pierre vient en tête, parce qu'1 Pierre parle de la souffrance. Et si vous commencez à faire des parallèles, vous commencez à voir que 1 Pierre et Jacques commencent à avoir beaucoup de parallèles en fait. Très intéressant. Par exemple, ils citent les deux Ésaïe 40, 6 à 8. Les deux, ils citent cette Ésaïe 40, verset 6 à 8 qui nous dit « Une voix dit, crie, et l'on répond, que crierai-je ? Toute chair est de l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur se fane, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certes, le peuple est de l'herbe. L'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu subsistera éternellement. » Ça, vous le retrouvez dans Jacques 1, versets 10 et 11. On a ces éléments qui s'y retrouvent. Ou encore, dans Jacques 5, 20, c'est une citation que Pierre prend aussi, qui dit ceci, « La haine excite les querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. » Proverbe 10, 12. Pierre et Jacques, en fait, ont vécu ensemble à Jérusalem. Donc c'est normal que Pierre et Jacques aient des pensées qui se rejoignent, qui sont similaires. Ils n'ont pas besoin de se copier l'un sur l'autre. Ils ont vécu des choses ensemble à Jérusalem. Et voilà pourquoi leur pensée est semblable. Donc par rapport à ces sujets de l'épreuve et de la tentation, pour nous dire est-ce que ça vaut la peine de lire de Jacques, je peux juste vous demander, est-ce que vous avez déjà vécu des épreuves ou des tentations? Si c'est le cas, Jacques est pour vous. Donc on se réjouit de l'étudier, d'étudier ces éléments. Donc c'est un sujet actuel qu'on va bien sûr aborder dans cette série. Troisième sujet, Jacques nous parle de sagesse. Jacques nous parle de sagesse. Où peut-on la trouver? Comment la demander? Qu'est-ce que la sagesse terrestre? Qu'est-ce que la sagesse d'en haut? Et en fait, le fruit de la sagesse d'en haut, dit Jacques, c'est être un artisan de paix. Moi, j'aime bien ça. Hein? Le fruit de la sagesse d'en haut, c'est être un artisan de paix. C'est également vivre le fruit de l'esprit que Paul développera plus tard, puisqu'il l'écrira après Paul dans Galates. Qui est en principe sa première lettre à Paul, hein, en Galates, où il dira, mais le fruit de l'esprit est, vous pouvez regarder vous dans Jacques 3, au verset 17, puis comme ça moi je vous lis dans Galates, puis vous pouvez voir, il y a des liens là. Hein. Donc Jacques 3, 17, c'est la sagesse d'en haut, et puis voilà ce qu'il est dit dans le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. On a plusieurs éléments qu'on retrouve dans la sagesse d'en haut décrite dans Jacques. Et par rapport à la sagesse, comment est-ce qu'on l'utilise avec notre langue? Quand on parle de la langue, on pense à Jacques. Parce que Jacques, il parle de la langue, enfin, comme un gouvernail, comme un feu, enfin, il prend toutes sortes d'illustrations pour nous montrer la puissance de la langue et comment l'utiliser. Et tout ça en lien avec la sagesse, justement, nous le verrons ensemble. Écoutez bien ce que on peut retirer de tout ça. Être rapide à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. C'est pas un bon programme? Surtout pour ceux qui sont en face de nous. Bon, quatrième sujet. Jacques nous parle aussi de pauvreté et de richesse. On a ces aspects très forts dans cette épître de pauvreté et richesse. Et là, j'aimerais juste donner quelques éléments de la tradition de piété juive, qui nous permet un peu mieux comprendre dans quel bain Jacques vivait, disons. Hein. Donc voilà quatre aspects de la tradition de piété juive par rapport à ces sujets, de la pauvreté et de la richesse. Premièrement, Dieu se préoccupe particulièrement des pauvres, des opprimés et des déshérités. Ça, c'est un élément fort dans la piété juive. Hein. Dieu se préoccupe particulièrement des pauvres. Deuxième élément, le peuple de Dieu doit à son tour se préoccuper des déshérités. Hein. Dieu se préoccupe et en fait, le peuple de Dieu, à son tour, est appelé à le faire aussi. On le voit dans Deutéronome 19, puis vous l'avez verset 18 précédemment, c'était pour la première partie. Troisièmement, il y a une tendance à identifier le pauvre à celui qui est juste. Ça, on le voit dans bien des écrits, dans les psaumes aussi. Souvent, celui qui est juste est pauvre, ou bien celui qui est pauvre est juste. Simplement, c'est une tendance. Et quatrièmement, il y a une tendance à identifier le riche et les puissants aux méchants. C'est une tendance aussi. Et ça, c'était dans la piété juive, cette tendance. Jacques vivait dans cette tradition. Et il souligne d'ailleurs, si vous regardez Jacques 2, verset 5, intéressant ce qu'il dit ici. « Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres selon le monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime ?» On a l'impression qu'il est exactement dans la même ligne que cette tendance de piété juive. Cependant, nous voyons que Jacques s'adresse aux riches qu'il appelle frères. Donc il n'est pas en train de dire que les riches sont forcément méchants. Ils appellent frères. Et il indique comment traiter les personnes riches et dans l'assemblée et comment les riches et les pauvres doivent se comporter. Voilà comment Jacques parle ici dans cet épître. Et en fait, n'avons-nous pas besoin d'un même encouragement à l'humilité aujourd'hui, puisque ce sera la clé en fait pour les riches et pour les pauvres. Parce que le pouvoir et l'attrait de l'argent a-t-il vraiment disparu aujourd'hui? Vivons-nous encore sous cette parole de 1 Timothée 6,10 qui dit « Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, et quelques-uns, pour s'y être abandonnés, se sont égarés loin de la foi et se sont infligés à eux-mêmes bien des tourments. » Moi, je pense qu'on a encore bien à apprendre de ce que Jacques veut nous dire ici sur ce sujet. Donc là, ben voilà, je vous fais simplement des proposition alléchante de tout ce que nous allons voir. Hein. On a quelques éléments. Sujet suivant, Jacques nous parle de la foi et de ses œuvres. Alors ça, c'est aussi un sujet qui vient très rapidement en tête quand on parle de Jacques. Hein. Jacques, c'est la foi et les œuvres. Et c'est peut-être le sujet dans Jacques qui a fait le couler le plus d'encre, à propos donc de la foi et des œuvres. Aucune foi n'est valable sans les œuvres. Elle est morte. C'est Jacques qui le dit. Mais alors comment comprendre le texte de Jacques 2, 24, si vous regardez Jacques 2, verset 24, où il est dit « Vous voyez, c'est par les œuvres que l'homme est justifié, et non par la foi seulement. » Puis après vous allez dans Romains 3, verset 28, et il est dit « Car nous comptons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. » Ils se contredisent ou quoi? La Bible se contredit, j'ai une preuve. Ah ben non, on va voir ensemble justement que en étudiant cela, nous allons voir que Jacques veut nous pousser à ne pas nous endormir ici. Ça c'est quelque chose de très clair. Et il veut nous faire comprendre qu'être chrétien, ce n'est pas juste prendre une décision, c'est être transformé. C'est pas la même chose. Et nous verrons en fait que Paul et Jacques ne se contredisent pas, mais se complètent. Mais là, je laisse le suspense, je ne peux pas le développer maintenant, sinon ça ferait toute la prédication, juste pour ce sujet-là. Mais lisez quand même ces textes et remplissez-vous déjà de tout cela jusqu'à ce qu'on y arrive. Et le dernier sujet que j'aimerais souligner, c'est que Jacques est rempli de l'enseignement de Jésus. Jacques semble être d'ailleurs l'épître qui a le plus de parallèles avec les enseignements rapportés de Jésus dans les évangiles. Donc ce qu'on peut lire dans les évangiles, eh bien on le voit dans Jacques de manière extrêmement fréquente. Vous trouverez à l'entrée, il y a des petits papiers bleus avec un petit document, on peut suivre la prédication. Vous pouvez même le prendre en sortant, c'est aussi possible. Parce qu'à l'arrière, vous avez un tableau avec 29 parallèles entre le texte de Jacques et les évangiles. Et je ne vais pas les prendre les 29 maintenant. Je vais juste vous en prendre 2-3 pour donner des exemples. Mais vous pourrez prendre ces 29 parallèles et les lire et vous en imbiber. Mais première, je vous donne 3 ou 4 exemples. Le premier, le fait d'être parfait. Soyez parfait. Jacques 1-4, vous avez toujours Jacques ouvert devant les yeux. Chapitre 1, verset 4. Il est dit, mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite afin que vous soyez parfait et accompli et qu'il ne vous manque rien. Et dans Matthieu 5, verset 48, Jésus dit ceci, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Un lien très clair entre ces enseignements. Ou encore, quand Jésus parle de la miséricorde pour les miséricordieux, c'est-à-dire ceux qui font miséricorde vont aussi bénéficier de la miséricorde. Donc là, si vous allez dans Jacques 2, verset 13, il est dit, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Et dans Matthieu 5, 7, qu'on a entendu tout à l'heure, dans le sermon sur la montagne, il est dit, heureux les miséricordieux, donc ceux qui accordent la miséricorde, car ils obtiendront miséricorde. Un lien très clair aussi ici. Ou encore un autre élément, que ton oui soit oui. On va peut parler de ça, on va parler des serments dans Jacques aussi, est-ce que c'est bien, pas bien, enfin, on en parlera. Mais en tout cas, que ton oui soit oui, c'est un texte que l'on trouve dans Jacques 5, verset 12, si je lis le texte. Avant tout, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui, que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Si vous allez dans Matthieu 5, voilà ce que Jésus va dire au verset 34. Mais moi je vous dis de ne pas jurer, ni par le ciel, ni par la terre, ni par le ciel parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus sur ta tête car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul de tes cheveux. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Ça c'était dans Matthieu 5. Vous voyez les liens, ils sont très clairs entre Jacques et ce que Jésus a enseigné. Ou encore un dernier élément. Jacques nous dit que le juge est à la porte. On a aussi tout un élément d'eschatologie, la notion de la fin des temps, le retour de Christ dans l'épître de Jacques. Et il dit, il est à la porte. Regardez dans Jacques 5, verset 9. « Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici que le juge se tient devant la porte. » Et Matthieu 24 nous dit ceci, « De même vous aussi, quand vous verrez tout cela, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. » Alors, est-ce que Jacques est si proche des enseignements de Jésus parce qu'il a reçu la même éducation que Jésus? Il a grandi ensemble, ils ont grandi ensemble. Ça, je ne peux pas vous le dire. En tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'en ayant grandi ensemble, ils avaient les mêmes références. Oui, ça, c'est très clair. Ils avaient les mêmes références. Et c'est un grand encouragement à reconnaître, en fait, que le même auteur qui a inspiré l'évangile de Matthieu, de Marc, de Luc, est le même que celui qui a inspiré Jacques. C'est le même auteur. Ça, c'est aussi une des raisons pourquoi il y a ces liens si forts. Donc, si on revient un petit peu à ces différents thèmes que l'on va trouver dans Jacques, j'aimerais nous poser une question pour chaque thème. Vous êtes prêts? Ça va? Vous êtes encore là? C'est plus très long. Ça va. Alors, Jacques nous parle de la divinité de Jésus. Es-tu convaincu de la divinité de Jésus? Jacques nous parle d'épreuves et de tentations. Sais-tu faire face aux épreuves et aux tentations? Jacques nous parle de sagesse. Sais-tu ce que c'est la sagesse? Et la vis-tu? Jacques nous parle de pauvreté et de richesse. Comment fais-tu face à la pauvreté et à la richesse? Jacques nous parle de foi et des œuvres. Notre foi est-elle vivante ou morte? Jacques nous parle de ce que Jésus a enseigné. Nos paroles sont-elles remplies de l'enseignement de Jésus? En fait, c'est avec l'aide du livre de Jacques que nous pourrons répondre clairement à toutes les questions que je viens de vous poser. Face au péché typique des chrétiens d'origine juive du temps de Jacques, l'esprit de jugement, les mauvaises langues, le décalage entre la profession de foi et la vie, l'amour du monde, l'orgueil, l'impatience. Cette lettre nous sera d'une très grande aide. Alors commençons par lire régulièrement cette épître, nous imprégner pour nous en réjouir et vivre la conclusion. Je vais simplement lire les deux derniers versets de Jacques, que nous puissions les vivre. C'est tellement beau ici. « Mes frères, si quelqu'un parmi vous est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, sachez que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. » Nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous sommes dans la reconnaissance que tu as donné la vie à Jacques, qui a vécu aux côtés de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ durant toutes les années où nous ne connaissons pas vraiment ce qu'il a vécu, mais où nous savons, selon ta parole, qu'il n'a jamais péché. Je veux te remercier parce que Jacques a pu le voir, il a pu le constater, il a peut-être pu en être jaloux, énervé. Mais Jacques a aussi pu reconnaître par ta grâce que Jésus est son Seigneur. Quelle découverte fulgurante cela a dû être pour lui de se rendre compte que Jésus était Dieu venu sur terre, avec qui il avait vécu tant d'années. J'aimerais te remercier parce que Jacques, qui a connu ce Jésus, désire que tous ceux qui lisent sa lettre aient une foi qui soit vivante, qu'elle ne soit pas morte, et que cette foi influence tous les domaines de notre vie. Que ce soit la manière de voir les choses, la manière de voir les autres, que ce soit par rapport à l'épreuve ou tentation, que ce soit par rapport à la manière de voir ceux qui ont beaucoup d'argent, ceux qui en ont peu. J'aimerais, Seigneur, te prier de nous aider à être complètement remplis aussi de cette foi et de cet enseignement que Jésus nous a donné. Oh Seigneur, que nous puissions nous aussi être imbibés de cet enseignement, que lorsqu'on nous entend, on puisse dire « Ah ben tiens, tel était là tellement de lien avec ce que Jésus dit dans la Bible. » Ben oui, parce qu'en fait c'est toi notre référence, et c'est toi que nous voulons transmettre autour de nous. Sois loué, sois béni, que chacun ici puisse être réjoui, que tu nous prends dans ton œuvre, comme tu l'as fait pour Jacques. Dans le beau nom de Jésus-Christ, amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez profiter d'autres ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.